1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
CLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Je parle pas trop du nez ?
Non, ça va.
Ok, ça va. Alors. De toute façon, il faudra faire avec. Hein.
Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc,
c'est ça.
Mais tu as une très belle voix.
Ok, merci. Il y a urgence.
Je crois, oui.
Ouais. Du coup, on a choisi de faire chacun une émission autour de cette thématique. Je commence.
Vas-y, c'est quoi ton urgence ?
Mon urgence, j'ai fait appel à j'ai fait des études d'économie au départ.
Okay.
J'ai trouvé ça passionnant, mais j'ai toujours été un peu dérangé par l'approche que la plupart des profs avaient, c'est-à-dire qu'on restait quand même dans un système bien établi. Ça remonte à loin, hein, déjà. Mais aujourd'hui, l'économie, ça continue à me passionner, sauf que quand j'écoute la plupart des intervenants, on reste dans des principes très
académiques,
alors qu'il y a quand même différentes façons d'approcher l'économie, mais les économistes hétérodoxes, finalement, on ne leur donne pas très souvent la parole, ou alors il faut aller chercher dans les chemins de traverse, quoi. Et aujourd'hui, j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai choisi un économiste. Je ne sais pas si tu le connais, je te propose qu'on l'écoute là pendant une minute, une sorte de résumé entre guillemets de sa pensée. Mm-hmm. Il intervient, après je te dirai qui il est si tu ne l'as pas reconnu. Okay,
okay.
La poursuite de la croissance économique dans les pays riches aujourd'hui, elle nous précipite vers un cataclysme écologique. C'est le problème central. On a des économies biophysiquement obèses qui sont en train de faire craquer les écosystèmes et de mettre à mal l'habitabilité de la Terre. Il faut qu'on mette ces économies au régime, quoi qu'il en coûte. La question, elle est avant tout une question de proportion. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier nos activités économiques, qui seraient moindres en quantité et qui, bien sûr, auraient changé en qualité, avec la logique du vivant ? On ne se rend pas compte, mais dans le système, énormément d'institutions n'existent que pour inciter à la croissance, c'est-à-dire plus de production, plus de consommation. La publicité. Pourquoi, en période de sobriété, on continue à faire de la pub ? Pour inciter à acheter des voitures, à changer ton téléphone, à prendre l'avion. Il faut maintenant que chaque question économique soit comparée avec un feu vert écologique. Mais tant qu'on n'aura pas vraiment mesuré l'ampleur du chantier, on restera à travailler sur des instruments à la marge, mettre des petits pansements sur un capitalisme qu'on essaye de rendre vert, alors que fondamentalement, il ne pourra jamais l'être.
Alors, j'ai pas reconnu parce que moi, j'y connais rien du tout en économie. Mais c'est vachement intéressant ce qu'il raconte, ce monsieur.
Oui, c'est très intéressant. Il s'appelle Timothée Parikh. Il est français, économiste. Donc, on le voit quasiment jamais dans les médias mainstream. Par contre, il y a énormément de conférences qui peuvent être trouvées sur Internet, sur différentes chaînes. Et il a sorti un certain nombre de bouquins. C'est un spécialiste de, attention, mot piégé, de la décroissance.
La décroissance, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Tout à fait.
Mais tu nous en avais déjà passé.
Ouais, c'est possible.
Tu nous en avais déjà parlé de
ce
garçon.
C'est possible, c'est possible. Ce que je te propose là, c'est une conférence TEDx qui dure 13-14 minutes que j'ai découpée en deux morceaux.
Oui.
Eh ben, on va l'écouter et puis on reviendra échanger successivement après chaque partie.
Allez,
okay, allez, on l'écoute, on écoute une première partie. Alors, le titre de la conférence, en fait, c'est « Penser le post-capitalisme ». C'est parti.
Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. La preuve ? Si je vous dis fin du monde, vous allez voir plein de trucs. Une pluie d'astéroïdes, une pandémie mondiale, un virus informatique, une attaque extraterrestre, des zombies. C'est facile en fait, suffit de regarder des films. Mais si je vous dis fin du capitalisme, vous voyez quoi ? Des bougies ? Des charrues ? Le grand retour de l'Union soviétique ? Pas grand-chose d'autre. Et c'est ça qui est bizarre. Comment se fait-il qu'on arrive à imaginer autant de scénarios de fin du monde, mais pas un seul où l'on organise l'économie différemment qu'aujourd'hui ? Le problème, c'est que c'est un petit peu le pire moment pour une panne d'imagination. Car notre présent, dans la réalité, commence de plus en plus à ressembler à un scénario de film catastrophe. À cause de nous, le climat est sorti de sa zone de stabilité. En gros, ça veut dire qu'on est en train de détruire le seul système de climatisation et de chauffage sur la planète. La production de produits chimiques a été multipliée par 50 en même pas deux générations, sans trop savoir quelles seront les conséquences sur nous et sur le reste du vivant. 68% des espèces de vertébrés ont disparu depuis les années 70. Les biologistes appellent ça une sixième extinction de masse. Et c'est des biologistes, hein, c'est pas des scénaristes hollywoodiens. Ce que j'aimerais démontrer aujourd'hui, c'est que ces crises écologiques sont d'origine économique. Que derrière chacun de ces problèmes, il y a juste quelqu'un qui fait son boulot. Quelqu'un qui doit payer des factures. Et quelqu'un qui se ferait sûrement virer si elle refusait d'obtempérer. C'est pas vraiment une question de responsabilité individuelle. Je pense pas qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin en se disant « Bah tiens, moi aujourd'hui je vais aller réchauffer le climat. » Détruire un petit peu de biodiversité. Non. La violence écologique, c'est un phénomène émergent. Un truc extrêmement néfaste qui découle de comportements extrêmement banals. Rembourser un prêt, trouver un boulot, enrichir ses actionnaires, booster ses ventes, obéir à un N+1. Mettez tout ça ensemble et vous obtenez une arme de destruction massive. Une sorte de bombe économique. Les dinosaures, au moins, ils pouvaient dire « c'est la faute de l'astéroïde ». Mais nous, notre astéroïde, c'est notre propre système économique. On va commencer avec un peu de théorie. Quand je parle de système, c'est un ensemble d'éléments organisés de manière cohérente afin de faire quelque chose de particulier. En gros, un système, c'est trois choses. Des éléments, des relations entre ces éléments et des fonctions rendues possibles par les relations entre ces éléments. Mon système respiratoire, par exemple, est composé d'éléments, le nez, la bouche, le larynx, la trachée, les poumons, de relations entre ces éléments, ce qui permet une fonction. Respirez. Eh bien, un système économique, c'est la même chose. Vous avez des éléments, des entreprises, un code de la propriété, des monnaies. Vous avez des relations entre ces éléments, des échanges, des dettes, des habitudes de consommation, des contrats de travail. Et ça, ça rend possible des fonctions. Extraire, produire, investir, échanger, consommer. Un système respiratoire permet de respirer, alors qu'un système économique permet, en théorie, d'économiser, c'est-à-dire d'organiser le contentement des besoins humains avec le moins de ressources possible. Alors, de la même manière qu'on a différents systèmes respiratoires, hein, respiration trachéenne chez les humains, cutanée chez les vers de terre, brachiale chez les poissons, eh ben on peut identifier des grandes familles de systèmes économiques. Et pour ça, il va nous falloir un tableau excessivement complexe qu'on va construire quand même par étapes. Alors, pour identifier et différencier les systèmes économiques, on regarde cinq caractéristiques. Les régimes de propriété qui spécifient qui possède quoi. Les mécanismes d'allocation des biens et services. Les protocoles de partage de la valeur et du surplus. L'organisation du travail et les modes de gestion de la monnaie. En gros, ces cinq institutions, vous les retrouvez dans tous les systèmes économiques. Sauf qu'elles vont prendre différentes formes. Ici, je vous en ai mis que trois, pour simplifier. Mais dans la réalité, il y en a beaucoup plus. Ce qu'on appelle le capitalisme, en fait, c'est un système économique particulier où on retrouve principalement un régime de propriété privée. En gros, c'est des personnes qui possèdent des entreprises. Une allocation par les marchés, et non pas par des mécanismes de rationnement politique, de dons ou de réciprocité. une distribution de la valeur individuelle, souvent pour ceux qui possèdent les entreprises, une organisation salariale du travail, où ce sont les employés qui vendent du temps aux employeurs, et une monnaie principalement gérée par des banques commerciales. Tada ! Je vous présente celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le capitalisme. Alors, l'architecture d'un système lui confère certaines capacités. On voit bien que les poissons, ils arrivent à respirer sous l'eau, mais pas sur la terre. Nous, c'est un petit peu le contraire. Ok. Le capitalisme, il a un avantage notoire. Il permet de maximiser l'accumulation du capital, c'est-à-dire la capacité d'un système à venir mobiliser des ressources pour produire plus. Le capitalisme, en gros, c'est un petit peu un coach sportif un peu relou qui n'arrête pas de te crier dessus pour dire de produire plus. De tout. Tout le temps. Cet avantage, en fait, il peut vite devenir un inconvénient. Les scientifiques ne cessent de nous répéter que la biocapacité de la nature, elle n'est pas infinie. On parle même de limites planétaires, sorte de grosses limitations de vitesse pour encadrer l'usage soutenable des ressources naturelles. Plus une économie tourne vite, plus elle va utiliser d'énergie et de matériaux, et plus elle va générer d'impact sur la nature. Au bout d'une certaine taille, on dépasse ces seuils, et c'est le cas dans tous les pays riches, et là on prend le risque de détériorer les écosystèmes, voire même de les casser. À ce point-là, on n'a pas besoin d'un doctorat en sciences de l'environnement pour comprendre qu'idéalement, il faudrait ralentir. Mais ralentir, ça le capitalisme, en fait, il peut pas le faire. Et ça, c'est lié à la structure du système. On peut pas demander à une entreprise commerciale de renoncer de produire quelque chose de lucratif. Ça irait contre sa raison d'être légale. Comment décroître alors que vous êtes endetté jusqu'au cou ? Vrai pour un ménage, vrai pour une ville, un gouvernement, vrai pour une entreprise ? Comment travailler moins alors que l'intégralité d'un salaire ne suffit pas pour subvenir à ses besoins ? Et comment consommer moins alors que nous sommes quotidiennement matraqués par de la publicité qui nous incite à faire exactement le contraire ? Un système respiratoire humain ne peut pas respirer sous l'eau sans se noyer. Un système économique capitaliste ne peut pas ralentir sans s'effondrer. C'est juste pas fait pour ça. Et donc, il va nous falloir inventer un nouveau système.
Waouh ! Alors ça, c'est du suspense, du teasing, tout ça. Quoi. C'est
ça
quoi ce nouveau système ?
Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Non, juste après la pause musicale, en fait. Est-ce que c'était clair, sa petite démonstration ?
Il est hyper clair.
Il est extrêmement pédagogique.
Ouais, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, tu comprends plein de choses et tu le suis, son raisonnement, il est logique. Et, tout ça. Et du coup, tu attends la suite.
Eh bien, elle arrive bientôt, juste après Sébastien Tellier. Allez, on l'écoute.
C'est cool.
Tu l'as déjà entendu ce titre?
Oui, oui, j'avais déjà entendu. J'ai vu, il est passé dans Quotidien. Et, okay. Et c'est lui qui chantait.
Ah ouais, ouais. En vrai?
En vrai.
Ok, extrait de son dernier album, Kiss the Beast. Rien que ça.
Oui.
Alors,
SLP, on traite des urgences, chacun son tour.
Voilà.
Et toi, tu nous parles de capitalisme aujourd'hui.
Et de post-capitalisme, si possible, parce que c'est quand même pas une mince affaire, ce truc d'essayer de basculer dans un autre système. C'est tout sauf simple. Mais au moins, là, déjà, Timothée Paré, qui nous a carrément déconstruit le système capitaliste, il nous a bien fait comprendre que même si c'est pas simple, c'est tout à fait possible de penser l'économie différemment et d'organiser la société différemment, contrairement à ce qu'on nous répète depuis Maggie Thatcher.
C'est exactement à elle que je pensais.
C'est vrai, ouais. Voilà.
Il n'y a pas d'autre alternative.
Exactement. Ben si, il y en a. Et du coup, il va donner des pistes. On l'écoute?
Ouais.
Et donc, il va nous falloir inventer un nouveau système. Alors, entre universitaires, on parle de post-capitalisme, hein, le champ d'études des systèmes qui pourraient potentiellement remplacer le capitalisme. Là, vous allez me dire, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, pour ça, il va falloir réutiliser notre super tableau. Le voilà. Donc, imaginons des entreprises possédées par celles et ceux qui y travaillent, suivant le modèle des coopératives. Bah, là, d'un coup, on peut prendre une décision avec un panel plus large d'intérêts et peut-être, théoriquement, décider de ralentir l'extraction des énergies fossiles. Imaginons l'allocation de certaines choses au-delà des marchés. Je pense notamment à une sécurité sociale de l'alimentation où une quantité minimale de nourriture serait allouée de manière universelle. Pour le partage de la valeur, et si on s'inspirait du limitarianisme, une philosophie politique qui consiste à fixer des seuils maximum et minimum de richesse? Pourquoi laisser les billets s'empiler dans les poches de quelques-uns? Un héritage garanti, par exemple, permettrait de remettre les compteurs à zéro à chaque génération. Pour le travail, fini le chantage à l'emploi dès qu'on veut réformer quoi que ce soit. Un territoire avec une coopérative d'activité et d'emploi peut identifier des besoins concrets et directement créer des emplois pour les satisfaire. Et pour l'argent, au lieu d'un système monétaire au service de la finance, on pourrait imaginer un service public de la monnaie, peut-être même avec des monnaies locales alternatives qui seraient directement au service des territoires. Et là, tout d'un coup, on pourrait financer toutes ces choses que le capitalisme n'a jamais pu financer, à commencer par la transition écologique. Alors là, bien sûr, bon, c'est un exemple, vous voyez, c'est un tableau, il y a plein de combinaisons. Le point principal que je veux faire, c'est que l'économie, c'est un peu comme les Legos. En fait, on peut changer n'importe quelle brique. L'objectif, c'est d'inventer une nouvelle économie qui permette de faire toutes ces choses dont on a cruellement besoin aujourd'hui, mais qui sont considérées impossibles dans le système actuel. Alors, oui, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. D'accord, mais il est plus facile d'imaginer la fin du capitalisme que de trouver une manière concrète de mettre fin au capitalisme. C'est la question à un milliard. Comment est-ce qu'on fait pour basculer d'un système à l'autre? Et j'aime bien cette notion de basculement, parce que c'est comme ça que les systèmes évoluent. Des comportements minoritaires se popularisent doucement jusqu'à devenir majoritaires, et boum, ça change la logique du système. C'est d'ailleurs comme ça que le capitalisme a émergé. Entre le milieu du XVIIIe siècle et le début du XIXe, des comportements assez niches de banquiers et de marchands, qui étaient jusque-là marginaux, se sont popularisés et sont devenus la norme. On a basculé d'une économie féodale à une économie capitaliste. Et si on a basculé dans le capitalisme, ça veut dire que théoriquement, on pourrait basculer en dehors du capitalisme. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que l'économie du futur, elle existe déjà partiellement dans le présent. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les crèches autogérées, la tarification solidaire, les prix libres, les écovillages, les monnaies locales, les budgets municipaux participatifs, les référendums citoyens, toutes ces initiatives qui existent aujourd'hui mais qui sont marginales, en fait, ces utopies qu'on prête, elles pourraient devenir la norme. Mais pour ça, il va falloir qu'on arrête de normaliser le capitalisme dans nos pensées, dans nos comportements et dans nos décisions politiques. C'est un petit peu comme en astronomie. En fait, on ne peut pas voir les étoiles quand il y a trop de lumière. Et donc, pour illuminer les alternatives au capitalisme, il va falloir l'éteindre. D'où l'utilité d'un concept qu'il revient de mettre au goût du jour. Le sabotage. Saboter, en fait, c'est faire son possible pour bloquer quelque chose de dangereux. C'est éviter l'émergence d'un problème. Un bûcheron qui ralentit la cadence, une banquière qui annule des frais injustes, des ingénieurs qui dénoncent des méthodes d'obsolescence programmée, ou une élue qui annule la construction d'une autoroute inutile. Certains pourraient appeler ça de l'esprit critique ou même du courage, mais en termes économiques, je pense qu'on peut parler de sabotage. Et en effet, pourquoi reconstruire d'une main ce qu'on a détruit de l'autre? On paye des communicants pour faire de la pub pour des sodas et d'autres communicants pour faire de la pub pour nous dire de ne pas boire trop de soda. On emploie des ingénieurs qui planchent toute la journée pour inventer des méga chalutiers et des environnementalistes qui planchent toute la journée pour trouver des solutions aux conséquences désastreuses des méga chalutiers. En gros, on paye la moitié de la population à créer des problèmes et l'autre moitié à les résoudre. Sauf que les fabricants de problèmes, ils sont beaucoup mieux payés que les fabricants de solutions. D'où l'impasse dans laquelle on se trouve actuellement. Le sabotage, c'est pas de la flemme ou de la négligence. Le sabotage, c'est un moins-faire intelligent. C'est un zèle chirurgical, une paresse agissante. C'est une révolution qui bâille, qui sieste, qui traîne les pieds. Un renoncement prospère. Saboter, c'est court-circuiter les comportements capitalistes pour permettre à des nouveaux modes de vie d'émerger. C'est un pas de côté nécessaire pour mettre fin à une partie de monopolie grandeur nature qui a déjà assez dégénéré. Et donc, et je vais finir là-dessus, retenons bien que l'histoire économique de notre génération reste à écrire. Ne laissons pas une poignée d'économistes sans imagination l'écrire pour nous.
Ouais, révolution.
Mais quelque part, elle a commencé, la révolution, c'est ce qu'il explique. Hein.
Ben oui, et c'est ça qui est très rassurant, oui, en fait. Oui. En gros, ça se fait naturellement.
Ouais, ça se fait naturellement. Après, il faut pousser le truc un peu. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle de sabotage.
Oui,
j'ai trouvé
oui,
ça intéressant. Oui. Parce que bon, saboter, on a éventuellement une image, une première vue plutôt négative du truc. Mais tout dépend comment on sabote et qu'est-ce qu'on sabote.
Surtout,
exactement.
Oui.
Donc c'est une histoire de choix qu'on peut faire en fonction de la position dans laquelle on se trouve aussi en tant qu'acteur économique, un salarié dans une boîte. Pour lequel il n'adhère pas forcément à 100%, et en même temps, il peut être contraint de rester dans ce statut-là, mais il a, malgré tout, je le dis d'autant plus facilement que c'est mon cas, on a une certaine marge de manœuvre, ouais, même si elle peut être réduite, on a une certaine marge de manœuvre. Il faut le faire en fonction de ce qu'on est apte à assumer comme décision ou non-décision. Voilà. En tous les cas, je trouve ça intéressant, son intervention. Et puis aussi, je suis sensible à la dimension un peu poétique et aventureuse.
Oui, c'est ça, oui. Il te propose des chemins aventureux. Moi, je l'ai trouvé à la fois complètement, déjà très clair, très pédagogue, mm-hmm, très... voilà. Et en même temps, complètement, pas apocalyptique, mais vraiment, on se rend compte qu'on est dans...
On est dans une impasse.
Un point de non-retour.
Complètement.
Tu vois, vraiment le truc. Et qu'il faut tout changer.
Ouais.
C'est super difficile, mais qu'il y a déjà des petits cailloux qui sont posés.
C'est ça.
Tu vois, il y a déjà des petites choses qu'on fait tous et qui fonctionnent.
Voilà.
Qui fonctionnent, les entreprises qui sont reprises par les employés.
C'est ça.
On a quelques exemples.
Tout à fait.
Là,
et ça
fonctionne.
Duralex, hein.
Non,
ouais,
c'était pas
ouais,
c'était pas
Duralex, ça. Entre autres.
Voilà,
oui,
et qui fonctionne.
La coopérative,
ouais,
bien sûr. J'allais dire, c'est à remettre au goût du jour. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, particulièrement dans les médias mainstream, c'est des choses qui sont absolument, enfin, très peu, de façon extrêmement marginale, qui sont passées sous silence quasiment.
Ouais, bien sûr.
Alors qu'il y a quand même profusion d'intervenants. économistes, sociologues, philosophes, qui ont pensent en fait cette limite et cette impasse dans laquelle on est, mais on les entend pas suffisamment. Et pourtant, c'est extrêmement important. Alors, on veut pas alerter, mais en même temps, si on n'alerte pas, eh ben, on se rapproche du mur, quoi.
On se rapproche de la fin, on se rapproche de minuit sur l'horloge du temps.
Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je repense à Duralex là, tu sais, ils ont fait une levée de fonds là, mais pas auprès des banques, auprès des gens.
Ouais.
Et en fait, ils ont obtenu vachement plus que ce qu'ils demandaient.
Je pense qu'il y a, il y a plein de gens qui sont prêts tout à fait, à financer ce genre d'entreprise dans le sens premier.
Oui, avec le côté affectif et tout ça. Mais c'est intéressant, tu vois, parce qu'ils disaient qu'on court-circuite les circuits traditionnels. Exactement. On invente autre chose, en fait.
Pour finir, je vais conseiller, en fait, trois entretiens que j'ai écouté et vu pour préparer l'émission. Il y en a d'autres, hein, mais je conseille ces trois-là. Donc, Timothée Parry, qui a une conférence qui s'appelle « La croissance verte est une illusion » sur un site suisse qui s'appelle Antithèse. Il y a une chaîne YouTube. Il y a plein de trucs passionnants, mais donc cet entretien-là. Sur cette même chaîne, Antithèse, Christian Arnsperger, qui parle d'économie pour la décroissance. Un mec passionnant aussi. Très pédagogue, et c'est extrêmement simple ce qu'il propose, c'est vraiment à écouter. Et un Anglais qui s'appelle Tim Jackson sur la chaîne Elucid. Et lui, c'est « La croissance vous rend malheureux ». Et c'est vraiment, pareil, hyper intéressant pour justement sortir de ce truc dont on nous rabat les oreilles, la croissance qui nous mène
absolument de la croissance
droit dans le mur.
Et oui.
On s'arrête là pour aujourd'hui.
Allez, d'accord.
On se retrouve la semaine prochaine.
Bah ouais, par exemple.
Allez, ciao.